parle dans le micro.
Comme ça m'angoisse les interviews, j'arrive pas à parler.
C'est, en là, plus. C'est mémorable. On passe à la radio aujourd'hui quand même.
C'est l'enfer.
Studio Zafar Vendôme, c'est sur le 91.7 FM. Et partout dans le monde sur studiozef.fr.
Bonjour les auditeurs.
Salutations voyageurs.
Les voyageurs des ondes radio.
Nous sommes les élèves du club radio du collège de Pressigny à Selles-sur-Cher.
Avec nous, nous avons Calvin qui se trompe toujours entre Studio Zef et Sweet FM.
Ambre, la maman du groupe parce qu'elle cadre tout le monde.
Cassandre, bah, qui a du mal à prononcer LGBTQIA+.
Théophane, le rigolo du groupe et le fan de rallye.
Gauthier qui souffle les réponses aux autres.
Lucille, la toute timide et la star de la patinoire de Romorantin.
Nous sommes au micro aujourd'hui car nous faisons de la radio depuis novembre dernier.
Et depuis la rentrée, chaque jeudi, nous apprenons le vocabulaire de la presse et des médias, ce qu'est une information, une source, un angle, quels sont les différents genres radio.
Nous avons aussi appris à faire des recherches documentaires sur les sujets que nous allons vous présenter.
Le club est encadré par Madame Tell, la professeure documentaliste ou prof doc. Mais surtout, ne l'appelez pas la dame du CDI. Et Monsieur Dussault, le CPE qui a une grosse voix.
Aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque Alain Quilloux, à Selles-sur-Cher, avec Christelle, la responsable qui nous accueille jusqu'au jeudi.
Nous allons aborder le sujet des inégalités. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce que ça ne devrait plus exister.
En effet, les inégalités, ce sont des injustices. C'est comme si, par exemple, Cassandre faisait le ménage pendant que Calvin mangeait sa pizza tranquillement devant la télé au prétexte que les femmes ont ça dans leur gène, non ?
Alors qu'on doit tous se partager les choses à faire à la maison.
Et du stéréotype au préjugé, il n'y a qu'un pas.
Oui, un préjugé, c'est une opinion injustifiée qu'on se fait sur une personne en fonction de son apparence, de son sexe ou de sa religion, et qui conduit à la discrimination.
Par exemple, les filles sont moins fortes que les garçons.
Les personnes handicapées sont des débiles.
Les homosexuels sont des flippettes.
Les femmes ne savent pas conduire.
Bref, les préjugés sont idiots et pires. Ils peuvent blesser les gens et leur nuire dans leur vie quotidienne. Il serait temps que ça change.
Pour commencer notre émission, nous allons parler des personnes en situation d'handicap.
Alors, avant que vous commenciez, à votre avis, combien de types d'handicap existent-ils ?
J'aurais dit 7.
9.
5.
Gagné, Calvin. Il existe 5 types d'handicap. Le premier, celui que tout le monde voit, hein, c'est la personne en fauteuil roulant. Hein, le handicap moteur, c'est le plus visible. L'handicap sensoriel, on le voit parfois aussi avec les personnes aveugles, on voit avec la canne, mais les personnes sourdes. Et puis, 3 autres types d'handicap invisibles, eux, le handicap mental, l'handicap psychique et l'handicap cognitif. Et du coup, puisque les handicaps, certains sont invisibles, à votre avis, il y en a combien de handicaps invisibles ?
Ça, on sait ! C'est 80%.
Eh oui, c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Et les cartes de priorité, on les trouve pas dans les pochettes surprises.
C'est pour cela que nous avons réalisé un micro-trottoir dans le centre-ville de Selles avec les commerçants et que nous avons choisi de les interroger sur l'accessibilité de leur boutique.
On va vous le faire écouter pour votre plaisir auditif.
Pour vous, que représente le handicap ?
Eh bien, pour moi, l'handicap, il n'y a pas d'handicap. Pour moi, toute personne n'est pas handicapée. Il doit être comme les autres personnes.
Pour moi, le handicap, c'est de ne pas pouvoir faire sa vie quotidienne.
Le handicap, alors il peut y avoir différents types de handicap. Donc, il va y avoir le handicap physique, il va y avoir les handicaps mentaux, psychologiques, qui peuvent être traités de façon différente hein, en fonction de la faisabilité, on va dire.
Ah bah, le handicap, c'est pas facile. Déjà, l'accès dans les commerces et en ville, ça serait bien.
Alors, il y a plusieurs sortes de handicap, physique, moteur, ouais, forcément, et intellectuel.
Donc, c'est une question qui est compliquée. Il va y avoir le handicap physique, le handicap mental. Je pense que c'est très, très vaste comme question. Je ne sais pas trop quoi répondre.
Le handicap, ça représente pas mal de choses pour certaines personnes. Après, ça dépend quoi, en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir des handicaps différents. Donc après, tout dépend vraiment de quelle question au niveau du handicap.
Pour vous, qu'est-ce qui est dangereux pour les personnes en situation d'handicap dans Selles-sur-Cher ?
Les trottoirs, peut-être, qui peuvent effectivement être dangereux pour les gens qui sont en fauteuil roulant.
Les trottoirs. Les trottoirs qui ne sont pas toujours bien faits.
Les trottoirs ne sont pas toujours adaptés, les trous de la chaussée, etc.
Je pense que les trottoirs ne sont pas très adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
Peut-être l'accessibilité, les pavés, Le fait que les gens roulent un petit peu vite en ville. Après, il n'y a peut-être pas forcément de visibilité aussi sur l'accessibilité par rapport au handicap. Si on part sur, par exemple, une personne en siège, ce n'est pas forcément facile pour elle.
Les trottoirs, l'accessibilité, en fait, ils n'ont pas d'accès pour circuler, c'est hyper dangereux. Alors après, ils peuvent accéder aux établissements, mais il y a toujours le rebord, il y a toujours des trottoirs partout. Voilà, après, je suis pas à leur place, donc je me rends pas trop compte.
Alors, nous, à Selles-sur-Cher, le problème numéro un, je pense que ça va être pour la mobilité, parce qu'il y a pas mal de trottoirs, il y a pas mal de rues un peu pavées qui peuvent être des fois un peu différentes et ça peut donner des difficultés pour certaines personnes. Après, peut-être pour les places aussi, pour se garer, nous, le numéro un, c'est ça. Et puis après, voilà, on a beaucoup de commerces avec certains des marches, donc ça peut être aussi un peu des problèmes, ceux qui ont des fauteuils et autres. Mais après, sinon, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites pour ces gens-là, donc voilà.
Est-ce que vous avez des installations pour les personnes en situation de handicap dans votre commerce ?
Non, pas pour l'instant. On va déménager et après, on aura une structure qui sera adaptée pour les handicapés.
Dans la pharmacie, donc elle est adaptée aux personnes en fauteuil roulant. Il y a un comptoir qui est un peu plus bas, vous voyez, celui-ci. Et puis tout est accessible en fauteuil roulant. Même les toilettes derrière.
À nous, tout est équipé pour. Les portes sont assez grandes, la largeur des passages, tout est équipé. On a des fauteuils roulants qui viennent, des gens qui sont malvoyants qui viennent, et il n'y a pas de souci.
Alors le magasin a été conçu effectivement avec plus ou moins une rampe, puisque j'ai un léger dénivelé entre la rue et la boutique. Donc il y a une rampe qui fait, on va dire, 1,50 m sur 3 avec une petite pente pour que tout soit plus facile pour les personnes à mobilité réduite, on va dire.
Alors le passage pour les fauteuils roulants les fauteuils roulants sont accessibles à la boutique. On a de quoi payer en hauteur réduite. Et après, pour ceux qui ont des handicaps mentaux, du coup, on a les vendeuses qui expliquent. Donc là, on est dans une boulangerie qui permet de rentrer et de voir tous les produits, même en étant en fauteuil roulant.
Alors, pour les personnes en fauteuil roulant, oui, on a une rampe qu'on peut sortir. En vrai, on les aide à soulever, beaucoup plus rapide et moins contraignant pour eux et pour nous. Après, les toilettes sont handicapées. Par contre, ils ne peuvent pas accéder à l'étage, ça c'est logique. Et pour tous les autres handicaps, que ce soit les sourds et muets, les malentendants ou les malvoyants, en vrai, on n'en a quasiment jamais.
Eh bien oui, déjà, moi, du coup, la porte d'entrée, j'ai un accès handicapé. J'ai après, du coup, mes toilettes aussi, la porte d'entrée avec accès handicapé. Donc, tout est prévu pour les handicapés.
Est-ce que vous êtes intéressé par le sujet, donc du coup, le handicap ?
Oui, parce que du coup, ça me concerne un peu. Moi, j'ai mon filleul qui est justement handicapé. Donc, du coup, forcément, que ça me tient à cœur. Normal.
Acceptez-vous les chiens d'assistance dans votre magasin ?
Pardon ?
Les chiens d'assistance.
Oui, sans problème.
Parce que de toute façon, on accepte même les chiens non pour les personnes handicapées.
Oui, on accepte les chiens. C'est normalement, je vais pas dire une obligation, mais c'est la logique même de laisser une personne rentrer avec son chien qui l'accompagne.
Oui, j'ai quelqu'un qui vient avec une dame aveugle, avec son chien, il n'y a pas de problème.
Oui, ça pose pas de problème.
Est-ce que vous êtes intéressé par ce sujet sur le handicap ?
Oui, moi ça m'intéresse parce que j'ai quelqu'un de handicapé dans la famille, donc malentendante. Donc pour moi c'est important qu'on parle de l'handicap.
Bien sûr, surtout en tant que pharmacien, c'est normal d'être intéressé par ce sujet.
Ah oui, ça m'intéresse, oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci.
Oui, après, la plupart des gens qui sont handicapés viennent quand même dans les restaurants et ils s'adaptent. Et on s'adapte à eux, mais voilà, ils sortent quand même.
Pour vous, quel est le pourcentage d'handicap invisible en France ?
Invisible ? Certainement plus qu'on ne pense. Alors un chiffre, peut-être 20-30%, je pense, peut-être.
20% ?
Facile, hein, je sais pas, 20%, 10%, je sais pas.
Peut-être,
aucune idée.
Peut-être
plus qu'on le pense,
oui, je pense.
Alors là, j'en ai aucune idée. Je sais pas, peut-être sur le total de l'handicap, Ah, ça doit représenter une bonne partie, 40% au moins, je pense.
Non. Ben, la réponse, c'est 80%. Et c'est 10 millions de personnes.
D'accord. Beaucoup plus que ce que je pensais, alors.
C'est énorme.
Très bonne question. Le visible. Ouais, je vais dire... Allez, invisible. Ah bah c'est il y en a au moins je pense une vingtaine de pourcents. Au moins.
La réponse c'est 80%, d'accord. C'est plus de 10 millions de personnes.
Ouais, c'est énorme. Mais après oui, sur les invisibles, oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont des fois des petits handicaps à hauteur de 10, 20, 30% qui ont des problèmes et qu'on voit pas, mais effectivement, il y en a quand même pas mal. Donc bah voilà, merci bien du coup, c'est ça, c'est tout. Eh ben, impeccable.
Merci beaucoup.
Bah, de rien.
Merci à vous.
Merci à vous.
Bonne journée. Bon courage pour ce petit reportage.
Vous êtes toujours sur Studio Zef avec les élèves du Club Radio des Précigny.
Nous allons passer maintenant à l'interview de Christelle, la responsable de la médiathèque. Et non, ce n'est pas la dame de la médiathèque qui se contente de ranger les livres. Ça aussi, c'est un préjugé.
Bonjour Christelle. Y a-t-il des installations à la médiathèque pour les personnes en situation de handicap ?
Oui, bonjour Théophane, bonjour à toutes et à tous. À la médiathèque Alain Quiou de Celles-sur-Cher, oui, nous avons des installations qui permettent aux personnes handicapées d'accéder en fait à la médiathèque, un ascenseur notamment, des portes automatiques à l'entrée. Alors tout le bâtiment n'est pas accessible, mais la plupart en fait du bâtiment l'est. Voilà.
Y a-t-il des documents adaptés aux personnes malvoyantes ou aveugles ?
Oui, nous proposons en fait des livres en gros caractères, hein, donc qui sont écrits plus gros que ce que vous pouvez trouver dans des livres d'habitude, hein, plus en fait des textes lus qu'on peut emprunter. Et pour les personnes aveugles, alors pour l'instant ça ne nous a pas été demandé dernièrement, mais pour les personnes aveugles, nous pouvons emprunter à la médiathèque départementale de Loir-et-Cher en fait des documents en braille.
Pour les autres handicaps, que proposez-vous ?
Alors, vous avez parlé de handicap invisible. Nous en accueillons quand même beaucoup, notamment des enfants qui ont des troubles 10. Et les parents sont soucieux, en fait, de trouver des documents, des livres pour leurs enfants. Donc, nous avons un présentoir qui présente, en fait, des documents pour les troubles 10 à destination des enfants et des parents aussi, pour aider les parents, en fait, à comprendre, à aider leurs enfants qui sont atteints de troubles 10.
Est-ce que vous recevez souvent des personnes en situation de handicap ?
Alors, fréquemment, oui. Nous avons des personnes qui viennent donc avec des cannes, des déambulateurs, qui viennent en fauteuil roulant. Et nous accueillons aussi des résidents en fait, des EHPAD, hein, donc des maisons de retraite de Celles-sur-Cher. Hein, et souvent, bah, ils sont en fauteuil roulant ou avec des cannes. Hein, donc, on les accueille, voilà. Et plus, ben, les personnes, les handicaps invisibles dont on parlait tout à l'heure.
Pouvez-vous nous présenter votre top 3 des livres sur le handicap ?
Alors, dans ces livres dont je peux vous parler, il y a « On va où, où on va, papa ?» de Jean-Louis Fournier. C'est un récit très court, je vous le conseille, hein, qui se lit très facilement, d'un papa qui, en fait... explique qu'il a eu 2 enfants handicapés. Et avec beaucoup d'humour, hein, il présente en fait les difficultés qu'il a eues. Il ne pouvait pas présenter ses enfants quand on lui demande « qu'est-ce que tes enfants vont faire plus tard ?» Bah, 2 enfants handicapés, 13 handicapés qui ne pourront jamais en fait aller à l'école. Voilà, c'est un challenge pour lui en tant que papa. Il y a Wonder, hein, c'est un livre aussi que je vous conseille, hein, de Hergy Palacio. C'est un collégien en fait qui a un problème physique en fait. Il a une déformation du visage et ses parents lui ont fait l'école à la maison jusqu'au moment où en fait il le scolarise, hein, dans un collège. Et ce sont toutes ces difficultés en fait pour s'intégrer au collège. Il va trouver en fait des personnes qui vont l'aider, mais aussi des personnes qui ne vont être vraiment pas sympathiques avec lui. Et il y a plusieurs points de vue en fait d'expliquer dans le livre. Donc je vous le conseille aussi. Et le troisième, qui est un petit peu mon chouchou aussi, c'est Patient de Fabien Marceau, que vous connaissez plus sous le nom de Grand Corps Malade, qui en fait a eu donc un accident, qui est devenu handicapé. Très fortement handicapé, et dans Patience, son livre, hein, il explique en fait, hein, toutes ses difficultés et les gens qu'il a pu rencontrer qui ont pu l'aider quand il a été dans un centre en fait de rééducation et qui lui a permis de retrouver une partie de son autonomie d'ailleurs, alors que ce n'était pas du tout gagné.
Ok, merci. Est-ce que ces trois livres sont accessibles à la médiathèque ?
Oui, ils sont accessibles à la médiathèque.
Merci Christelle d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes toujours sur Studio ZEF avec les élèves du Collège du Précilly.
Pour rester dans le domaine de la culture, partons dans les salles obscures avec Stéphane, le régisseur du cinéma de Selles-sur-Cher.
Bonjour, je m'appelle Théophane, j'ai 14 ans et je fais partie du collège Les Précigny et je vais laisser ma collègue se présenter.
Bonjour, je m'appelle Ambre, je vais laisser l'invité Stéphane, responsable du cinéma de Selles-sur-Cher, se présenter.
Eh bien bonjour, je suis Stéphane, effectivement responsable du cinéma depuis 4 ans maintenant, sur Selles-sur-Cher.
Comment font les personnes en fauteuil roulant pour venir voir les films ?
Eh bien, ils font un peu comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Ils rentrent par la porte. Le seul truc, c'est que on adapte effectivement quand j'ai des gens qui arrivent en fauteuil roulant. J'ouvre en grand les portes, puisque, enfin, pour être déjà venu au cinéma, tu sais que les portes sont réduites en deux parties. Donc, j'ouvre en grand et les gens peuvent rentrer. Alors après, il y a des gens qui viennent en fauteuil, mais il y a aussi des gens, tu sais, qui viennent avec, je ne sais plus comment on nomme ce petit truc, mais tu sais des petits chariots roulants pour les aider à avancer. Donc ça aussi, pareil, j'ouvre les portes et ils peuvent rentrer sans problème.
Qu'est-ce qui est mis en place par le cinéma pour les personnes en situation de handicap ?
Eh bien, comme je viens de vous répondre, effectivement, on ouvre les portes. Après, il y a aussi des gens qui ont des difficultés à s'asseoir dans les sièges de cinéma. Donc, je leur donne des petits coussins, des choses comme ça. J'ai des gens qui sont également en situation de handicap visuel, c'est-à-dire qui deviennent petit à petit aveugles. Donc, ils se positionnent en venant avec des gens. Donc, généralement, il y a une dame ou un monsieur qui les accompagne. Ils s'installent où ils veulent et ils se mettent généralement assez près pour bien voir l'image.
Comment font les personnes sourdes pour regarder les films ?
Alors, les personnes sourdes, comment t'expliquer ? Vont se mettre un peu plus près, effectivement, de l'écran. Mais généralement, ceux qui viennent au cinéma et qui ont ce handicap sont appareillés. Donc avec leurs appareils, ça leur permet quand même d'entendre un peu plus.
Est-ce qu'il y a des tarifs réduits pour les personnes en situation d'handicap ?
Oui, alors il y a un tarif réduit, effectivement, qui est de 5,50 € pour les personnes en situation de handicap, alors que le tarif plein est à 8 €.
Combien de films sur le handicap a été produit pendant l'année ?
Alors, pendant l'année, ça va être un peu délicat parce qu'on n'est qu'au mois de mars, mais il y en a déjà eu un qui est sorti au mois de janvier 2026, qui s'appelle Qui brille au combat avec Mélanie Laurent, sur le handicap d'une jeune fille et la difficulté pour toute la famille de continuer à vivre tous ensemble avec le handicap de la petite sœur, en fait. Voilà. Mais globalement, c'est un film par an à peu près qui sort.
Combien de personnes handicapées vous voyez chaque semaine ?
Alors, globalement, je vais dire que j'ai à peu près 2-3 personnes en situation de handicap par semaine. Mais il arrive que des centres réservent, par exemple, des maisons de retraite, l'EHPAD, avec des personnes handicapées en fauteuil, nous appellent et réservent toute une rangée, par exemple. Alors moi, j'ai sur le cinéma toute la rangée de devant qui est réservée qu'au fauteuil. C'est-à-dire que si des gens sont venus et se sont installés sur ces places et que j'ai des gens après qui arrivent en fauteuil, je vais demander aux gens de se déplacer pour laisser la place au fauteuil.
Est-ce qu'il y a un film au cinéma sur le handicap en ce moment ou dans la semaine ?
Alors non, je te dis, le dernier est de janvier 2026 et pour l'instant, cette semaine, il n'y en a pas.
Vos trois films préférés sur le handicap, c'est lesquels ?
Alors, je remercie la personne qui a posé cette question parce que c'est... Ça a été très difficile de n'en trouver que trois, enfin de n'en retenir que trois. J'ai choisi un film de David Lynch qui s'appelle Elephant Man, qui est sorti en 1980. C'est un film en noir et blanc sur le handicap physique. C'était un homme qui avait le visage vraiment... déformé complètement, oui, je te remercie. Et du coup, tout le monde l'appelait Elephant Man. Il y a aussi le discours d'un roi qui date de 2010. Alors là, c'est en fait sur le roi George VI, qui était le père de la reine Elisabeth II, qui lui avait comme handicap qu'il était bègue. Donc en fait, il avait du mal à parler et il bégayait tout le temps. Et en fait, tout le long de l'histoire, on le voit évoluer jusqu'à un moment où il doit prendre la parole devant tout le peuple britannique et effectivement faire un long discours. Et puis alors le dernier que j'ai mis, c'est un petit truc en plus. Alors pourquoi j'ai choisi ce film ? Parce que globalement, je dirais que quand on regarde un peu, les gens ont peur du handicap. Et là, pour la première fois, les gens sont venus, ont vu des jeunes trisomiques et ont vu les jeunes trisomiques qui pouvaient rire. Et en fait, les gens ont rigolé et ils n'ont plus peur de ce handicap comme ils avaient peur auparavant. Et donc, je trouve vraiment bien qu'un film fasse cet effet positif aux gens. Et d'ailleurs, ça se voit puisqu'on a eu 11 millions d'entrées pour ce film sur toute la France. Donc, ça a été un des plus gros succès de l'année 2024.
Ben, merci de vous être déplacé pour... nous autoriser à vous interviewer.
Je vous remercie. Bonne fin de journée.
Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille. J'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Viril, fille viril, depuis que je suis gamine. Virile, pareil que je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire, mais comme une fille on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille. Marche plus vite comme les autres filles. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Viril, fille viril, depuis que je suis gamine. Maman sait que je suis masculine. Une fille viril, une fille viril. Maman sait que je suis masculine. Une fille virile. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine. Maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile.
Vous êtes toujours sur Studio Zef avec les élèves du collège Les Pressigny, qui d'ailleurs ont bien mérité un petit bonbon Arlequin.
Ah bah justement, ça tombe bien, nous avons avec nous Kevin Nappé de l'association Arlequin.
Il fabrique des bonbons ?
Mais non, c'est une association en rapport avec le thème de l'émission. Mais juste avant, quelques dates sur les droits des personnes LGBT. Saviez-vous qu'il a fallu attendre 1982 pour que l'homosexualité soit dépénalisée en France? Et en 2013 pour que les personnes homosexuelles aient le droit de se marier? Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur la plateforme Studio Zef. Je suis actuellement avec ma collègue et nous avons un invité mystère.
Bonjour, Je me nomme Cassandre. Nous avons le plaisir de recevoir notre invité mystère qui va se présenter maintenant avec Calvin. Et à vous de vous présenter.
Bonjour Cassandre, bonjour Calvin. Moi je m'appelle Kevin Nappé, je suis le président de l'association Arlequin dans la Vallée du Cher à Saint-Aignan. Et j'ai créé un festival l'an passé qui s'appelle la Semaine de la Diversité et qui lutte contre toutes les formes de discrimination.
Et pourquoi avoir voulu rejoindre l'association Arlequin ?
Alors, j'ai relancé plutôt l'association Arlequin en 2016. C'était une association qui était en sommeil, donc qui existait juridiquement, mais qui n'avait plus de fonctionnement réellement. Et j'ai décidé de la relancer avec quelques amis. C'est une association qui avait pour but de valoriser les pratiques artistiques contemporaines. Donc des expositions, des rencontres, des formes d'art contemporain. Et voilà. Et du coup, depuis, il y a plein de choses qui se sont passées. On a organisé plusieurs événements jusqu'à ce dernier événement récent qui est la Semaine de la Diversité.
Et lors de cette Semaine de Diversité, il y a quoi comme activité que vous proposez ?
Alors, il y a plein d'activités. Il y a eu des expositions, il y a eu des rencontres, il y a eu un cycle cinéma, des interventions scolaires dans le but de pouvoir parler, de libérer la parole et de pouvoir valoriser les formes de tolérance pour éviter les préjugés, les stéréotypes.
Est-ce qu'il y a d'autres associations sur à peu près le même type du LGBT ?
Alors, ce n'est pas une association qui travaille sur la thématique des LGBTQA+. C'est une association qui est plutôt, à la base, dédiée à, je te l'ai dit, à la valorisation des arts contemporains. C'est-à-dire, on a beaucoup d'artistes qui font partie de l'association. Et l'art dans la société a pour objectif de pouvoir permettre d'avoir une liberté d'expression, entre autres. Et compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans la société, l'actualité que l'on entend régulièrement, qui fait qu'on a de moins en moins de liberté d'expression, il nous a paru important de pouvoir défendre des personnes qui étaient les premières à être discriminées et qui risquaient de ne plus pouvoir vivre comme elles l'entendaient. Donc on a mis en place un événement qui permet de soutenir, entre autres, les personnes LGBTIQ+. Mais ce n'est pas la vocation même de l'association. Donc on a travaillé avec des associations dont c'était l'objet. Notamment, il y a un centre à Tours qui s'occupe de ça, un centre LGBTIQA+, avec une association aussi sur Blois qui s'appelle le Planning Familial, qui traite justement des questions féministes et des questions de personnes LGBT.
Qu'est-ce que veut dire LGBTQI+ ? LGBTQIA+.
LGBTQIA+, ça veut dire lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, agenré, etc. etc., etc. Ce sont des représentations de genre ou des orientations sexuelles. LGB, lesbienne, gay, bi, ça représente des personnes qui ont des orientations sexuelles différentes de ce que l'on appelle l'hétéronormativité, c'est-à-dire simplement un homme avec une femme. Lesbienne, c'est deux femmes qui s'aiment ou qui ont des rapports sexuels ensemble. Gay, c'est deux hommes. Bi, c'est une personne qui peut avoir des rapports indifférents avec un homme ou avec une femme. Une personne trans, ce n'est pas une orientation sexuelle. Une personne trans, c'est une représentation de genre. C'est-à-dire que c'est une personne qui est née avec un sexe à la naissance et qui ne se reconnaît pas dans cette représentation de sexe, dans les normes sociales de la société. Voilà. Donc c'est juste pour vous expliquer qu'à l'intérieur de toutes ces lettres, il y a des personnes qui ont une orientation sexuelle et des personnes qui se représentent simplement avec des genres différents.
Pourquoi avez-vous créé la Semaine de la Diversité ?
Alors, j'ai créé la Semaine de la Diversité dans l'idée de pouvoir permettre d'avoir un débat. Dans la période qu'on vit actuellement, on a tendance à pouvoir empêcher les gens d'avoir une liberté d'expression de plus en plus. Et l'idée, c'était de pouvoir parler de tout sujet possible et de permettre à tout le monde de pouvoir cultiver sa tolérance. C'est-à-dire le fait qu'on soit tous différents, il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur qu'une personne soit différente d'elle. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre à des gens d'éviter d'avoir peur. Et pour ça, il est important qu'on puisse cultiver sa tolérance. Avec un événement comme ça, ça permet de parler de sujets, de voir des gens qui sont différents, qu'on voit pas forcément tous les jours. Et du coup, ça permet de cultiver la tolérance. Donc ça nous paraissait assez important. Et ça, ça permet aussi de pouvoir, à des artistes, continuer à parler librement de plein de sujets, et des sujets qui parfois peuvent être un peu fâchants pour des gens. Et pourquoi j'ai choisi de faire ça aussi ? Parce que moi, je suis quelqu'un de gay, ouvertement gay. Il y a plein de gens qui ne le disent pas, mais moi, je n'ai pas peur de le dire. Mais je me rends compte qu'il y a énormément de personnes sur le territoire. Moi, j'habite sur un territoire rural. Quand on est en ville, quand on est à Blois, à Tours, Orléans ou dans des grandes villes, on a la possibilité d'avoir une représentation très différente des gens. Et en milieu rural, comme là où j'habite aujourd'hui, à Saint-Aignan et sur la vallée du Cher, je vois qu'il y a peu de gens qui osent affirmer leur différence. Donc il est important, moi je le fais, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il me paraissait important de pouvoir montrer aussi à la population qu'il y avait des gens différents et qu'il ne faut pas avoir peur des gens qui sont différents. Et ça me permet aussi de pouvoir peut-être, vis-à-vis d'élèves comme vous, de personnes jeunes, de pouvoir montrer que l'on peut assumer une différence sans avoir peur de sortir de chez soi, sans avoir peur d'être critiqué, ou alors de pouvoir assumer une critique sans forcément se sentir visé et être susceptible des critiques que l'on peut avoir vis-à-vis de soi.
Est-ce que vous avez subi de la discrimination en étant gay?
Oui, ouais, j'en ai subi comme beaucoup, notamment quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, plus au collège qu'au lycée, parce que plus on grandit, plus les critiques ou en tout cas les discriminations sont un peu réduites ou en tout cas sont plus faciles à déconstruire. Et aujourd'hui, je le vois pas directement. J'ai pas des gens qui ouvertement crient dans la rue pour m'insulter, mais je vois effectivement quand même des personnes qui peuvent parler dans mon dos ou qui peuvent laisser des messages des fois sur certains commentaires sur les réseaux sociaux. Ou voilà, ça se fait pas ouvertement parce que je suis quelqu'un qui est où je m'affiche visiblement et j'ai pas peur de m'afficher. Et le fait de ne pas avoir peur de s'afficher, en fait, ça évite à des personnes qui pourraient se sentir supérieures à moi de venir et d'essayer de m'insulter ou en tout cas de m'invectiver. Mais ça arrive fréquemment, ça arrive très fréquemment et ça arrive dans tous les milieux.
Et comment vous le vivez, ça, tout ça ?
Eh bien, ça m'a amené à créer ça. Je trouve ça vraiment très moche. Ça me peine beaucoup de voir qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir peur de sortir de chez soi. Quand j'entends des gens racistes, par exemple, parce que la semaine de la diversité, ça ne touche pas que des personnes LGBTIQ+. Ça peut toucher aussi des personnes qui sont discriminées parce qu'ils ont une couleur de peau différente, par exemple, ou une apparence différente. Tu vois, une personne qui est handicapée, une personne qui peut être forte, par exemple. C'est des personnes qui peuvent être discriminées, donc pas uniquement sur la partie représentation de genre ou sexualité. Et je trouve ça vraiment triste pour plein de raisons, parce que je pense que c'est une richesse qu'on soit tous différents. Tu vois, le fait que tu aies des cheveux bouclés longs, le fait que tu aies des cheveux courts, le fait que tu aies des lunettes, le fait qu'on soit tous différents fait que ça ouvre ton esprit à quelque chose d'autre. Tu vois, ça permet d'aller plus loin. Le champ des possibles, il est beaucoup plus ouvert. Et en même temps, je crois que ça serait vraiment triste si on était tous pareils. Si on avait tous la même allure, tous la même pensée, on s'amuserait pas, on serait pas, voilà, on s'enrichirait pas les uns les autres. Et puis, deuxièmement, historiquement aussi, il y a quelque chose qui me peine beaucoup aujourd'hui, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé ça l'année dernière, c'est qu'on a connu, il y a moins d'un siècle, une guerre mondiale atroce où on a exterminé des gens parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils ne correspondaient pas à ce qu'on voulait d'eux. Et que malgré le fait qu'il y ait des dizaines de millions de personnes d'exterminées, il y a encore des gens aujourd'hui qui utilisent les ressorts de la discrimination pour pouvoir empêcher des gens de vivre leur vie naturellement, simplement. Voilà. Et ça, je trouve que c'est horrible. Et le fait de ne pas se battre pour ça, pour la liberté, la tolérance, fait qu'on laisse le terrain à la haine revenir petit à petit et de plus en plus, alors qu'on a déjà connu quelque chose de catastrophique il y a quelques dizaines d'années. Donc c'est important de lutter au quotidien pour pouvoir défendre cette liberté de vivre, d'être.
Et comment vos actions peuvent aider ?
Pendant la semaine de la diversité, on aborde chaque jour une thématique différente. Donc, tu vois, l'an passé, on a eu une journée qui était dédiée, par exemple, au racisme, une journée qui était dédiée, par exemple, au féminisme, une journée qui était dédiée au genre. Et donc, pendant ces journées, on a créé différents moments. On a créé des rencontres, on a fait venir des gens qui ont parlé de sujets, on a projeté des films au cinéma. Donc, on a pu observer aussi des choses qui se passent un peu aux quatre coins du monde avec des regards différents, avec des représentations un peu différentes. Et ça, ça a ouvert le débat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont assisté. Par exemple, le mardi, on a eu une journée qui était dédiée à la transidentité. Est-ce que la transidentité, ça vous parle ou pas ? Non. Non. Voilà. Et bien, il y a plein de gens à qui ça ne parle pas. Et du coup, le fait de venir, de voir un film, de voir des personnes qui parlent de transidentité, ça leur a permis de découvrir ce que c'était réellement. Le fait, après, d'avoir un débat et d'échanger, de pouvoir poser des questions avec des personnes trans, ça a permis de comprendre, d'aller plus loin et de pas simplement être dans la peur. Donc, tu vois, ça ouvre le champ des possibles. Il y a des fois des grands-parents qui étaient là, qui se posent des questions parce que leurs petits-enfants, par exemple, sont trans et qui ne comprenaient pas bien ce que ça pouvait recouvrir. Ça leur a permis d'échanger, de savoir, de poser des questions sans forcément interroger directement leurs enfants ou leurs petits-enfants, tu vois. Donc, c'est des moments d'échange, c'est des moments d'information et d'échange qui sont différents du fait d'aller faire une recherche sur Internet ou te lire dans un livre.
Cette année, quelles sont les dates de la semaine de la diversité ?
Alors, la semaine de la diversité pour la deuxième édition en 2026 va se dérouler en plusieurs temps. La grosse partie, c'est-à-dire la partie off, officielle de la semaine, aura lieu du 22 au 27 juin. Et cette année, on élargit le cercle géographique, si je peux dire cercle, mais on va élargir la géographie. On va être à la fois présent sur Saint-Aignan, présent aussi sur Blois et présent sur Vendôme. À cela, on va ajouter une partie qu'on appelle le Bifort, où on aura quelques événements dans ces trois villes qui vont commencer à partir du 12 juin, de manière à pouvoir présenter aussi une quantité de rencontres, de films, d'expositions tout au long du mois et éviter de trop saturer les journées qui concernent la semaine. C'était un peu le reproche qu'on nous a fait l'année dernière. On avait une super belle programmation avec des intervenants qualitatifs, mais du coup, il y a plein de gens qui ne pouvaient pas être présents tout le temps. Ils étaient un peu frustrés. Donc, le fait de pouvoir allonger dans le temps cet événement va permettre de pouvoir participer à plus de moments. Donc, ça commencera le 12 officiellement, le 12 juin, à la Fondation du Doute, avec une performance d'un artiste qui s'appelle Damien Rouxel, qui est un artiste queer, qui va faire une performance là-bas. Voilà.
Eh bien, je comptais vous remercier pour cette interview.
Merci, Cassandre.
Et moi aussi, je vous remercie pour vous avoir... que vous vous êtes déplacé pour qu'on vous interviewe.
Merci Calvin et merci de porter ce sujet-là aussi dans un club de radio comme vous le faites.
Eh bien, merci Kevin. Et justement, Ambre va nous présenter une BD qui rencontre un énorme succès au collège. Ambre, explique-nous pourquoi les élèves se battent pire qu'un premier jour des soldes pour lire.
J'ai lu Airsopper d'Alice Hoffman. C'est une BD qui date de 2019. C'est ma copine Emma qui le lisait et qui me l'a conseillé en me disant « Tu vas sûrement aimer ». Du coup, je suis allée l'emprunter au CDI et je les ai enchaînés tellement j'ai adoré. Je suis pressée de lire le tome 6. Il va sortir en juillet.
Et ça parle de quoi ?
Airstopper, ça parle de deux garçons, Nick et Charlie. Charlie est un nouvel élève au lycée, il joue de la batterie et fait de l'athlétisme. Il se lie d'amitié avec Nick, qui joue dans l'équipe de rugby. Petit à petit, Charlie tombe amoureux, même s'il sait que Nick aime les filles. Et bien sûr, il finit par lui avouer ses sentiments. Au fil des tomes, on suit leur histoire d'amour, mais aussi leur vie quotidienne chez eux ou avec leurs amis. Et en plus, dans cette histoire, il n'y a pas de drama. Ils ne se disputent jamais.
Ils sont gentils l'un envers l'autre.
Est-ce que les dessins sont-ils sympas ?
Oui, et c'est en noir et blanc. Et je trouve que c'est bien adapté pour traduire l'étonnement, la tristesse, la colère, la joie, parfois des personnages.
Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette histoire ?
Ce qui m'a plu, c'est que c'est l'histoire de deux garçons et pas d'un couple classique, d'un gars et d'une fille. Ça change des clichés habituels des histoires d'amour dans les livres. Personnellement, je ne lis pas d'autres romans d'amour car je trouve que c'est toujours la même histoire, un garçon musclé et une fille dans l'attente. Ici, les personnages ne sont pas stéréotypés.
Quel est ton personnage préféré ?
C'est Charlie car il est musicien et qu'il fait du sport. Je me reconnais un peu en lui parce que je joue de la guitare acoustique et je fais de l'équitation.
Tu ne m'avais pas dit qu'il y avait une adaptation sur Netflix.
Si, enfin, elle porte surtout sur le tome 1, mais je trouve plutôt fidèle. Bref, Airstopper, c'est le livre qu'il vous faut si vous êtes fan de BD. Et si vous n'aimez pas lire, vous pouvez toujours regarder l'animé parce que l'histoire est vraiment chouette.
Et du coup, lequel des deux fait la vaisselle ?
C'est quoi le rapport ?
Ben justement, nous avons mené une enquête et l'égalité dans la répartition des tâches ménagères. C'est loin d'être gagné. Écoutez.
Bonjour. Je me présente, je m'appelle Cassandre Tripot. On va vous parler de stéréotypes. Est-ce que vous avez déjà entendu des insultes homophobes dans votre vie ?
Non, pas spécialement.
Ou des insultes sexistes peut-être ?
Non plus.
Alors, est-ce que vous avez déjà entendu des insultes homophobes ?
Il y en a régulièrement, des insultes homophobes. Bah, mon fils a dit ce matin, par exemple, il me disait à l'école « Mais t'es une gonzesse ou quoi ?» Mais il est où le problème d'être une gonzesse ou d'être un mec ? On est humain. Le but, c'est d'être heureux. On est né pour être heureux, on est né pour vivre notre vie, pour être chacun nous-mêmes. Je vois pas pourquoi. Qu'est-ce que ça peut faire aux autres, en fait, s'ils sont heureux ? Voilà. Vous êtes né pour quoi ? Pour faire votre vie ? La vie des autres, logiquement, vous en fichez. Logiquement, hein ? On est censé en avoir rien à faire, ça nous impacte des fois. Être heureux, ça emmerde les gens, pardon. Je suis enregistrée en plus. Oui, mais c'est vrai, c'est le mot, en fait. Votre bonheur, vivre sa vie, faire ce qu'on a envie de faire.
Que pourrions-nous faire pour arrêter le sexisme ?
D'ailleurs, je sais rien, je traîne pas avec les bonnes personnes, il n'y en a pas dans mon entourage, donc je... Je ne pourrais pas en parler personnellement, donc là-dessus, je ne pourrais pas répondre à ta question.
Quels sont pour vous les clichés sur les hommes et les femmes ?
On va dire la femme à la cuisine et l'homme au bistrot. Allez, on va dire ça. Bon, on va jouer avec le jeu.
Dans votre vie quotidienne, vous faites quoi pour arranger les femmes avec les femmes ou hommes avec les hommes ? Les hommes.
Les différences.
Bah, pour arranger les différences, on peut faire à manger. Un homme peut faire à manger, il peut passer le balai, il peut faire plein de trucs. Hein. Il n'y a pas que les femmes qui doivent faire ces rôles-là. Après, chacun vit comme il le sent. Mais le principal conseil qu'on peut donner aux jeunes, c'est ça, c'est d'aider leurs femmes.
Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. T'es une fille, tu chiales. T'es un mec, t'es costaud. Non. Alors, il y a l'égalité des sexes, certes. Mais attention, j'ai lu un texte hier. Il y a les hormones qui sont là aussi. Une femme ne peut pas forcément faire par rapport à ses hormones.
Bah oui, après, s'il y a de l'égalité, il faut que les femmes fassent leur partie aussi. Et des fois, qu'elles aident leur mari aussi à faire coucher en requin du jardin, tout ça. Après, c'est l'égalité homme-femme, il faut faire plein de trucs.
Alors, c'est quoi la question ?
Donc, que pensez-vous des insultes homophobes ?
Oui, bah c'est juste à chier.
On en entend régulièrement, mais c'est bien...
C'est triste.
C'est triste de voir ça, quoi. Que à notre époque, ça n'a pas beaucoup évolué.
Voilà.
Quels sont pour vous que vous avez déjà entendu comme insultes sexistes ?
Les sexistes, c'est surtout les insultes envers les femmes, donc grosse vache, d'autres noms qui ne sont pas très beaux à dire. Dès qu'on est un peu habillé différemment, voilà. Mais je vais pas dire les gros mots, hein, ça se fait pas.
Oui, non. Bon, ils les connaissent de toute façon.
Ils connaissent mieux que nous, voilà, oui, oui. Aussi bien que nous.
Que faites-vous au quotidien pour lutter contre le sexisme ?
Exactement rien.
C'est vrai, parce que bon, au quotidien, quoi faire ?
Non, c'est une attitude personnelle, quoi.
C'est le comportement qu'on a chaque jour avec la personne avec qui on vit, déjà. Donc,
tu vois, je te laisse parler, parce que ça fait bien. Il y a un message.
Tout ce qui est ménage et tout ça, il semblerait que ce soit toujours destiné aux femmes. Même,
On n'a pas la même notion du ménage, oui, du rangement. Oui, voilà, c'est très genré. Oui, le ménage, ça
c'est... Ménagère,
c'est le truc.
Oui, voilà.
Oh, il n'y aura plus que ça. C'est bon. Et tout le reste, c'est bon.
À peu près. Tu as le droit de dire des trucs aussi.
Je le dis.
Que pourrions-nous faire pour arrêter le sexisme?
Mon Dieu. Ce sujet. C'est dans l'éducation, de toute façon, ça commence par là, déjà. L'éducation des parents, à l'école, des cours qui viendraient en complément.
C'est que l'éducation qui peut permettre de s'affranchir de ces différences. On le voit avec toutes les discriminations, qu'elles soient raciales ou pour les LGBT, etc. Ce n'est que la raison. Donc c'est l'éducation, il n'y a rien d'autre. Et l'exemple.
La façon de voir le ménage homme-femme,
non, on n'est pas pareil.
Oui, non, mais ça n'empêche pas. Entendu. La question, c'est est-ce que d'après vous, c'est inné ou c'est acquis?
Ah non, non, c'est il y a une part d'acquis et il y a un côté, je suis persuadé, qui est inné. On ne voit pas les mêmes choses, on ne pense pas pareil. On a le même niveau d'intelligence, c'est pas pour ça qu'on pense les mêmes choses et qu'on est piloté par les. On n'est pas piloté par les mêmes hormones. Déjà. Et tout doucement, avec le temps, avec l'âge, on voit bien que nos hormones nous pilotent moins, qu'elles ont moins d'action sur ce qu'on est. Voilà. Donc, il n'y a que l'esprit qui peut passer par-dessus tout ça.
C'est vrai que les jeunes générations, maintenant, je pense que les parents les font plus participer, garçons et filles, aux tâches ménagères, justement, en parlant de ça. Et donc après, je pense que les jeunes générations, maintenant, s'y mettent plus que les vieux messieurs, comme nous, qui a eu maman et les sœurs pour tout faire à sa place. Et voilà, c'est resté.
Parce que quand on est avec des codes, vos parents vous mettent des codes, et il y a des choses, on n'a pas envie spécialement. Moi, par exemple, jusqu'à présent, je n'ai pas été heureuse et à ma place, parce que mes parents m'ont mis des codes et c'est pas moi. C'est pour ça que je vous dis, soyez libre, soyez heureux, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît. Vous êtes né pour vous, pas pour les autres. Faites ce que vous aimez. C'est lui qui cause. C'est pas lui, c'est lui. Le cœur.
À quelques différences biologiques qui concernent le genre, les cerveaux des hommes et des femmes sont identiques. Il n'y a pas de gêne du ménage ou du bricolage. Et franchement, je connais des femmes qui assurent dans les gros bricolages. Et des hommes qui ne savent même pas planter un clou. Les constructions sociables ont la vie dure.
Il suffit de regarder les catalogues de jouets. Page rose, layette pour les filles. Bleu pour les garçons.
Eh oui, vous avez raison. D'ailleurs, je vous propose un petit quiz. Est-ce que vous allez être capable d'y répondre dans le public aussi et chez vous? Alors, le 8 mars... C'était la journée internationale des droits des femmes et non pas la journée de la femme, comme on le voit souvent. Et à votre avis, le premier pays à l'officialiser en 1921, c'est la France, la Grande-Bretagne, la Russie soviétique ou les USA?
Les USA?
Perdu.
La Grande-Bretagne, la Russie soviétique.
C'est la Russie soviétique, aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc, 1921, la Russie soviétique l'officialise. Et l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, à votre avis, elle attend quelle année pour l'officialiser? 1945, 77, 83 ou 2001?
83?
Oh non.
1977?
Oui, 1977, plus de 50 ans après. Et du coup, chez nous, en France, à votre avis? Entre 1921 et 77, entre les deux, après, vous en pensez quoi?
1931.
Oh, bien après 40.
1952.
Encore plus tard.
65.
Oh là, vous êtes loin. 1982.
Ah,
ouais, la France, elle a un train de retard là-dessus, hein. Un autre domaine, puisqu'on parlait du rose layette tout à l'heure, est-ce que vous savez ce qu'on appelle la taxe rose?
Non, pas du tout.
Non.
Pas du tout.
Et bien en fait, la taxe rose, c'est le fait que des produits qui sont destinés aux femmes, qui sont parfois roses, ben en fait, ils sont plus chers que exactement le même produit qui est bleu pour les garçons.
Oula.
Vous regarderez la prochaine fois quand vous irez faire vos courses. Les ciseaux roses sont plus chers que les ciseaux bleus. Le vélo rose est plus cher que le vélo bleu. L'Académie française a été créée en 1634. 1634. En quelle année y est entrée la première femme? Est-ce que c'est en 1712, 1837, 1948 ou 1980? Je vous rappelle, créée en 1634. À votre avis, la première femme qui entre à l'Académie française? 1700? Non.
1800?
Non plus. 1980, c'est Marguerite Yourcenar, la première femme à entrer à l'Académie française. 350 ans après sa création.
Oui, quand même.
Ah oui. Hein. Allez, dans la série, les femmes, on les oublie. Est-ce que vous savez ce qu'est l'effet Mathilda?
Non. C'est Mathilda.
Non, c'est pas un film, enfin pas à ma connaissance.
Mathilda.
Oui, alors Mathilda, c'est Roald Dahl, hein. On n'est pas du tout dans le même registre. En fait, l'effet Mathilda, c'est quand les hommes s'approprient le travail intellectuel des femmes et s'en attribuent les mérites. Aujourd'hui, on dit que bah, voilà, les hommes ont inventé ceci, ils ont inventé ça, ils ont inventé ça, ils ont inventé ça. Mais souvent, derrière ces inventions, ce sont des femmes qui ont été invisibilisées. Normalement, vous savez. Edith Lamarr, vous en avez entendu parler?
Non.
Non.
Oui, ça vous dit quelque chose, oui, vaut mieux. C'est elle qui est à l'origine de la création du Wi-Fi.
Ah oui.
Ah oui.
Je connais toujours pas.
La création du Wi-Fi. Allez, on continue. Puisqu'on parle un petit peu de féminisme, on va parler de masculinisme. Est-ce que pour vous, le masculinisme, c'est la version masculine du féminisme?
Non.
Non.
Pas du tout.
Je sais pas, en fait.
Eh non, le féminisme revendique l'égalité quand le masculinisme revendique la supériorité de l'homme sur la femme. Un autre registre. Quel pourcentage de femmes victimes de viol connaissaient leur agresseur personnellement? 10%, 40%, 60% ou 90% des femmes connaissent leur agresseur quand elles sont victimes d'un viol? 90%.
Ça fait le temps de parler.
Ah oui, on imagine tout le temps quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on croise comme ça. Mais non, 90% des femmes connaissaient leur agresseur. Et alors, suite à notre micro-trottoir, les tâches ménagères. À votre avis, les femmes y consacrent combien en moyenne par jour? 62 minutes, 111, 124 ou 206 minutes par jour?
206 minutes.
Eh ouais, 206 minutes par jour. Et alors, la même question pour les hommes?
1%.
Bah, le plus bas.
1,5%.
0.
Dans certains cas, c'est pas faux. Bah, en fait, c'est la moitié. C'est 111 minutes, hein, les chiffres. Allez, dernière question, là, c'est vraiment pour le fun. En quelle année les femmes sont-elles légalement autorisées à porter le pantalon en France? En quelle année les femmes ont le droit, dans la loi, de porter un pantalon en France? Alors, 1850, pardon, 1948, 1982 ou 2013?
2013.
1982.
Bah si, c'est 2013.
1982.
Alors, ils sont pas d'accord, 82?
Moi, je dis c'est 2013.
Ouais, moi, 82.
Cassandre?
1982.
Eh non, 2013.
Non.
Avant 2013, selon la loi, il était illégal de porter un pantalon quand on est une femme.
Ah oui, d'accord.
Bah.
Et les filles doivent être douces, minces, féminines et s'occuper des enfants et de la maison. Et les hommes, eux, doivent être musclés et virils et s'occuper des gros travaux que les faibles femmes ne peuvent pas faire, les pauvres.
Ce sont des stéréotypes qui font du tort d'eux. Parce qu'un homme, contrairement à ce que disent les masculins, c'est que de la testostérone. J'arrive pas à le dire.
Justement, tu ne voulais pas nous parler d'un roman que tu viens de lire, Gauthier?
En effet, je viens de lire Miette, Humain décalé, de Stéphane Servan, qui est au CDI au collège. Madame Tell me l'a conseillé de le lire. J'ai trouvé la couverture plutôt banale et le titre m'inspirait pas vraiment. Mais en fait, le livre, ce roman m'a beaucoup ému.
Et ça parle de quoi ?
Ça parle d'un élève de terminale qui est sur scène pour faire un spectacle de fin d'année. Au début, c'est drôle. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous lire un petit extrait. Vous vous dites, tiens, le voilà lui, avec ses 1m50, ses lunettes et sa tête d'allumette. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce débardeur ridicule ? Ce débardeur qui laisse voir ses bras épais comme des bretzels. Finalement, il me ressemble plutôt pas mal, ce personnage. C'est sans doute pour ça que je me suis identifié à lui. Et c'est vraiment visuel et on a l'impression d'y être.
C'est un livre humoristique alors ?
Non, pas du tout, parce que le personnage passe rapidement sur des trucs plus drôles qui relèvent des trucs graves pendant son année scolaire.
On a envie d'en savoir plus. Il y a eu un meurtre ?
Ah non ! Je ne peux pas vous divulgâcher, mais ça parle entre autres de harcèlement.
Divulga quoi ?
Divulgâcher, c'est le mot français pour dire spoiler. Bref, j'ai eu un coup de cœur parce que ça parle de l'harcèlement. J'ai eu une amie qui s'est fait harceler et qui m'en a parlé. Ça m'a beaucoup touché. L'harcèlement me rend hyper triste et ça a été difficile d'être rassurant pour elle. Mais heureusement, elle en a parlé à des professeurs et cette situation s'est arrêtée.
Et tu as un passage préféré ?
Oui, le passage qui m'a beaucoup parlé, c'est quand le personnage se fait bousculer par un camarade. Mais là, je voudrais pas divulgâcher. Je peux juste vous dire que les miettes ne sont pas des bouts de pain, mais aussi des bouts de vie. En tout cas, j'ai découvert un auteur et j'ai très envie de lire d'autres romans qu'il a écrits, comme Le Monstre, Féline, Purée de cochon, Le Masque.
Merci Gauthier.
Et surtout un grand merci à Christelle qui nous a accueillis.
Merci à Clémentine de Studio ZF.
Merci à Clémentine de la médiathèque départementale, et oui, il y a deux Clémentines, et au conseil départemental du Loir-et-Cher.
Merci Kevin de l'association Harlequin et à Stéphane du cinéma de Sèche-sur-Cher.
Merci aux commerçants et aux passants qui ont accepté de répondre à nos questions.
Merci à Madame Tell, notre professeur documentaliste, et Monsieur Dousseau, notre CPE, pour nous avoir permis de vivre cette expérience enrichissante.
Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur studiozef.fr.
Ou écouter Studio ZF sur le 91.1 à Blois et le 91.7 à Vendôme.
Au revoir.
Au revoir.
C'est quoi une femme ? Quand on l'empêche, quand on aimerait qu'elle ne dise rien. Quand on la laisse, quand on l'enferme dans un coin. C'est quoi une femme quand elle a peur de tes mains ? C'est quoi une femme ?
C'est bonhomme qui n'a plus peur quand il faut protéger les siens. Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien. C'est bonhomme qui ne trompe pas, qui se contient. C'est bonhomme.
C'est quoi un homme ?
C'est quoi une femme ?
On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend.
Si t'es un homme,
si t'es une femme.
On nous demande d'être l'épaule, d'être les bras, de rester là. Et de sourire devant les gens quand rien ne va. On se demande bien trop de choses qu'on ne sait pas. On se demande si on pardonne la différence et toutes les remises en question. Si l'on oublie les idéaux, les illusions. Si on pardonne les faux pas, les déceptions. Je te pardonne. C'est quoi un homme ? Quand il se terre, quand il se cache pour pleurer. Quand il a peur, quand il a mal à en crever. Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien.
C'est quoi un homme ?